À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Crise en Libye, les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est du pays, Khalifa Haftar, s'engagent à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections dès que possible, selon un projet de déclaration diffusé ce mardi par la présidence française. Ce document de travail a été diffusé avant la rencontre entre M. Sarraj et Haftar, prévue dans l'après-midi à la Serre Saint-Cloud, près de Paris, sous les auspices du président français Emmanuel Macron. Selon des sources diplomatiques, les deux frères ennemis se sont accordés sur une déclaration, mais le texte diffusé n'est pas la version définitive, même s'il reprend les principaux points évoqués depuis quelques jours. Le projet de déclaration en 10 points réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne et réitère la validité des accords de Skhirat au Maroc, signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. Le cessez-le-feu ne s'appliquerait pas à la lutte antiterroriste, précise le texte, qui appelle également à la démobilisation des combattants des milices et à la constitution d'une armée libyenne régulière. Le document insiste aussi sur la création d'un état de droit en Libye et au respect des droits de l'homme. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale, GNA, est reconnu par la communauté internationale mais peine à asseoir son autorité depuis plus d'un an. Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'autoproclamé armée nationale libyenne, répond aux autorités de l'Est qui ne reconnaissent pas la légitimité de Sarraj et ses forces accumulent les gains militaires sur le terrain. En RDC, polémique à Kinshasa concernant la désignation de Joseph Olenga-Koy à la tête du Conseil national de suivi de l'accord politique du 31 décembre 2016. Contesté dès sa nomination par des leaders politiques comme Vital Kamerhe et Jean-Pierre Lisanga Bonganga, c'est maintenant au tour du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et ses alliés de récuser Joseph Olenga-Koy, ce qui risque de compliquer davantage le travail de ceux qui devraient être l'une des structures clés chargé de veiller au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après l'UNC de Vital Kamerhe, c'est au tour du Front pour le respect de la Constitution de rejeter la désignation de Joseph Olenga-Koy à la tête du CENSA, organe chargé du suivi de l'accord politique signé le 31 décembre dernier sous l'égide de l'Église catholique. La plateforme politique que pilote le MLC dénonce le caractère irrégulier du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Le week-end dernier, quelques heures seulement après la désignation du président des FONUS et président du Conseil des sages de l'autre aile du rassemblement, l'UNC dont le leader Vital Kamerhe devait pourtant occuper l'une des vice-présidences affirmait déjà que la mise en place du bureau du CENSA était faite en violation de l'accord et que cela ne le concernait pas. À ce stade donc, seule la majorité présidentielle a salué la désignation de Joseph Olenga-Koy, récusé désormais par deux de ses trois vice-présidents. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Congo-Brazzaville, la France s'est déclarée préoccupée par la situation dans la région du Pool, près de la capitale. Le second tour des élections législatives est prévu dimanche prochain et Paris lance un appel aux autorités congolaises pour que le scrutin se tienne dans toutes les circonscriptions, selon Gina Mongisa.
Le porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré que la France reste préoccupée par la situation dans la région du Pool et ses conséquences sur le plan humanitaire. Paris appelle les autorités de Brazzaville à prendre les mesures nécessaires pour établir rapidement les conditions qui permettront la tenue des élections dans toutes les circonscriptions. Le parti au pouvoir est arrivé en tête du premier tour des élections législatives et locales du 16 juillet en remportant 70 des 151 sièges de la future Assemblée nationale. Le second tour est prévu dimanche. Les opposants se sont dit préoccupés par le fait qu'une bonne partie du Pool a été exclue du processus électoral. Le Pool a replongé dans la violence depuis la réélection contestée en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir.
Côte d'Ivoire, près de 150 scientifiques de toute l'Afrique sont réunis près d'Abidjan de lundi à jeudi pour créer la Société africaine de primatologie, avec l'objectif de sauver les singes menacés d'extinction sur le continent. La situation des primates est catastrophique. Plus de la moitié des espèces africaines sont menacées de disparition. Les causes de la baisse des populations des primates en Afrique sont connues. La chasse et le braconnage, la disparition de leur habitat, notamment les forêts, à cause de l'extension des activités agricoles humaines, de l'exploitation exagérée du bois, des mines et de l'urbanisation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conférence internationale sur le sida à Paris. Le programme de coordination de l'ONU contre le sida a besoin de 7 milliards de dollars pour pouvoir juguler ce fléau. Toute coupe supplémentaire risque de compromettre les résultats escomptés. Or, aux États-Unis, historiquement le plus gros contributeur financier à la lutte anti-sida, le président Donald Trump propose de réduire les financements de plusieurs programmes de santé. Écoutez le cri de cœur du directeur de l'ONU SIDA, Michel Sidibé.
C'est un moment de paradoxe que nous vivons. Nous avons des résultats convaincants aujourd'hui du Swaziland, un pays qui était l'épicentre de la crise, plus de 30% de prévalence. Et voilà, ce pays montre aujourd'hui qu'ils peuvent contrôler l'épidémie. Ils ont doublé le nombre de personnes sous traitement en 5 ans. Ils ont pratiquement une suppression de la charge virale qui est au-delà de ce qu'on estimait. Mais c'est les pays en voie de développement qui augmentent leur contribution dans la lutte contre le sida. Pour la première fois, on a 57% des ressources qui proviennent des ressources domestiques. Par contre, nous constatons une baisse du financement des donateurs. C'est un paradoxe. Moralement, éthiquement, ce n'est pas acceptable lorsqu'on a les outils, lorsqu'on a les résultats, lorsqu'on a une solidarité globale avec une responsabilité partagée parce que les pays africains, dans la plupart des cas, augmentent leur contribution. Ce n'est pas le moment de réduire les contributions internationales.
Le directeur de l'ONU SIDA, Michel Sidibé. Ici aux États-Unis, le Freedom of Information Act, ou la loi sur la liberté d'information, a 50 ans ce mois-ci. Reconnaissant le droit des citoyens à l'information, cette loi est fondée sur l'idée radicale d'assurer la transparence des actes gouvernementaux. Un reportage d'Aolita Dunelari, repris ici par Michel Joseph.
Le principe du Freedom of Information Act est simple. Toute personne ou entité peut soumettre une requête pour avoir accès à divers documents gouvernementaux. Cette demande ne peut être rejetée que dans 9 cas précis, dont des considérations liées à la vie privée ou à la sécurité nationale. C'est donc un outil précieux pour Jason Leopold, journaliste d'investigation du site internet BuzzFeed, joint par Skype.
J'ai l'expérience personnel d'avoir demandé et obtenu des documents de diverses agences gouvernementales, exposant des méfaits, du gaspillage, de la fraude et des abus.
C'est une demande de Jason Leopold sous le Freedom of Information Act qui a forcé le département d'État américain à publier l'année dernière des milliers de courriels d'Hillary Clinton. Ces documents ont révélé que Mme Clinton, alors chef de la diplomatie américaine, utilisait un serveur privé, un sujet qui a fait l'objet d'une intense couverture médiatique l'année dernière pendant la campagne. Malgré ces 50 ans d'existence de la loi américaine sur la liberté d'information, la tendance au secret s'est accentuée au sein des institutions gouvernementales. Les requêtes rejetées dans le cadre du Freedom of Information Act ont donné lieu à de nombreuses plaintes. Adam Marshall, du Comité des reporters pour la liberté de la presse.
Les données en notre possession montrent qu'au cours de la dernière décennie, le niveau de secret mesuré par le nombre d'exemptions demandées par le gouvernement et le nombre de requêtes rejetées n'a cessé de croître.
Les États-Unis ont encore du chemin à faire pour honorer leur engagement à assurer la transparence gouvernementale, estime Adam Marshall, assurant que les efforts se poursuivront pour faire évoluer la situation.
The journalists here and the civil society groups are so committed to FOIA.
Les journalistes et les groupes de la société civile sont déterminés à faire respecter la loi sur la liberté d'information, si bien qu'en dépit de la frustrante lenteur du processus, il y a une grande énergie et un grand engagement à faire prévaloir la loi et à l'améliorer.
50 ans après son adoption, le Freedom of Information Act des États-Unis, la loi sur la liberté d'information demeure un important outil pour les journalistes dans leurs efforts pour informer le public et demander des comptes au gouvernement.
Et pour terminer, ici à Washington, le Sénat américain se prononce ce mardi par vote sur l'opportunité d'engager un débat sur le projet de loi de santé. Cela se fera ce mardi, a déclaré Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine à la Chambre haute. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.